Les rencontres d'Edmond Morel. Élie Barnavi, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication aux éditions André Versailles, en coédition avec Temporin, d'un livre guide pour une exposition, entre autres, mais qui est finalement un livre exposition en lui-même, Dieu au pluriel, mode d'emploi. Alors tout d'abord, une première question sur Temporin, André Versailles. Temporin, si vous deviez décrire ce que c'est en relation avec le musée de l'Europe, comment le définiriez-vous ?
Tempora est un peu le bras armé du Musée de l'Europe. C'est la société qui produit les expositions du Musée de l'Europe. Voilà, pour faire court. Et donc, nous sommes associés, Tempora s'est associé à l'éditeur André Versailles pour produire ce livre.
Ce qui veut dire qu'on peut dire que le Musée de l'Europe est un musée virtuel, en quelque sorte, dans la réalité.
Non, ce n'est pas un musée virtuel dans la mesure où c'est une association dont vous êtes dans les lieux donc de Tempora et du Musée de l'Europe. C'est une association qui produit des expositions dont celle-ci qui circule en Europe et à travers le monde. Donc le musée existe comme producteur d'expositions. Nous n'avons pas encore de murs à nous, mais le musée, ce ne sont pas des murs, ce sont des gens qui produisent des expositions. Et nous en sommes déjà, je ne sais même plus les compter, nous avons déjà plusieurs expositions attractives, dont celle-ci qui a circulé un peu partout.
Voilà. Alors, on va parler de celle-ci, Dieu, mode d'emploi, mais je vais peut-être laisser le téléphone s'interrompre. Comment faire pour... Alors, le téléphone s'est interrompu, donc nous pouvons reprendre. Alors, l'exposition et le livre s'intitulent « Dieu, mode d'emploi ». Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cette exposition est plutôt un cheminement vers la réalité religieuse, vers le fait religieux, la pratique religieuse, plutôt que vers là où les religions ?
C'est une exploration de pratiques religieuses en Europe et dans le monde. L'idée est de ne pas trop se préoccuper d'histoire, de religion ou de théologie ou de la question de la foi, mais d'aller voir comment les hommes, un peu partout, vivent leur religion au quotidien. C'est le vécu religieux des gens qui nous intéresse, les pratiques. Et donc nous faisons passer les gens, les visiteurs dans l'exposition, les lecteurs de ce livre, par une série de portes, puisque ce sont des modalités universelles de pratiques religieuses, et derrière ces portes, nous leur faisons découvrir les modalités nombreuses, innombrables, dont ces grands thèmes sont traités par les différentes religions. Donc c'est vraiment, un mot un peu ambitieux, c'est de l'anthropologie religieuse, soutenue par des objets, par des images. C'est un voyage à l'intérieur de la manière dont les gens vivent le religieux. Voilà.
Alors, si je peux me permettre cette formule, la philosophie de cette exposition et de ce livre est en quelque sorte de lutter contre l'ignorance des religions, sans pour cela faire du prosélytisme ni vouloir convertir à l'une ou l'autre des pratiques religieuses.
Absolument. C'est un livre vu en quelque sorte de l'extérieur de la religion. Je ne suis pas croyant. J'ai un regard d'historien et d'anthropologue en quelque sorte sur le fait religieux. Et je constate, comme avec d'autres, qu'il y a d'une part, la religion revient en force, puisque on le constate tous les jours, et de l'autre, que nous avons largement perdu les clés de la compréhension de ce phénomène, puisque l'Occident est sans doute la première civilisation, l'Occident contemporain, la première civilisation de l'histoire sortie de religion. Nous sommes les premiers à vivre notre vie individuelle, collective, sociale, sans le secours de la religion. C'est une nouveauté absolue. Et donc, nous avons largement perdu les clés de compréhension des phénomènes qui nous intéressent de très près, que nous le souhaitions ou pas. Et donc, ce livre est un moyen, comme d'autres d'ailleurs que j'écris, c'est une manière de dire aux gens, lisez, vous comprendrez, ce phénomène vous intéresse, il est au cœur de votre de votre vécu quotidien, que vous l'aimiez ou pas. Et donc, il vaut mieux comprendre c'est de quoi cet aspect-là est fait. Et puis, il y a aussi une autre dimension. Je crois profondément que l'intolérance, la haine de l'autre, proviennent largement de l'ignorance de ce qui se passe chez l'autre, n'est-ce pas? On ne détecte jamais aussi bien que ce qu'on ignore. Et donc, c'est aussi une manière de dépasser cela et de le dire, voilà, partout où vous viviez, où que vous soyez, quelle que soit la religion que vous pratiquiez ou que vous ne pratiquez pas, vous avez les mêmes interrogations et souvent vous apportez, sans en être conscient, les mêmes réponses. Et donc, c'est une manière aussi de montrer aux hommes et aux femmes, n'est-ce pas, qui vivent dans nos villes, que l'autre n'est pas aussi étranger que cela, qu'il est à mains égards, qu'il nous ressemble, qu'il a les mêmes questions, qu'il leur apporte parfois des réponses différentes, mais enfin, que les questionnements sont toujours les mêmes et que finalement les réponses, aussi différentes me semble-t-elle, ne le sont pas tant que cela.
En cela, vous rejoignez un peu les conclusions que Régis Debray avait soumises en France lorsqu'on l'avait interrogé sur la disparition, finalement, en séparant l'Église de l'État et en créant un État laïque, la disparition de la connaissance des religions au sein notamment de l'enseignement. Est-ce que ce livre, d'une certaine manière, et l'exposition contribue à ce que l'on connaisse la part de culture qui existe dans la religion, la nôtre d'ailleurs, notre mode de vie ou le mode de vie de l'autre?
Tout à fait. D'ailleurs, Régis Debray, membre du comité scientifique de cette exposition, il a d'ailleurs rédigé une postface au livre. C'est un homme avec qui j'ai réfléchi depuis longtemps à ces questions et nous avons abouti à la même conclusion que la manière de concevoir la laïcité dans les pays d'Occident, une laïcité d'ailleurs à laquelle j'applaudis et dont je suis un fervent partisan, s'est accompagnée d'une espèce de rejet de la connaissance de la religion, ce qui est absurde. Savoir n'est pas adhérer, n'est pas croire nécessairement. La laïcité n'est pas une machine contre la religion, c'est une modalité juridique et morale de vivre ensemble dans une société donnée. Et donc, savoir, comprendre d'où cela vient, savoir de quoi est fait, de quoi sont faites les pratiques religieuses, c'est comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est vrai que la France, la Belgique sont des pays laïcs, mais ils sont des pays laïcs depuis hier. Et avant-hier, ils ne l'étaient pas. Ils étaient profondément religieux. Et donc, nous vivons tous dans un environnement qui est marqué très fortement par la religion. Il n'est peut-être pas inutile de savoir de quoi cela est fait pour savoir d'où sont venus, de quoi est faite cette civilisation. Toute civilisation est une archéologie, n'est-ce pas? Et dans cette archéologie, la strate religieuse est tout de même très épaisse, très présente. Et donc voilà, c'est une manière de dire, ouvrez, lisez, et vous comprendrez un peu mieux le monde dans lequel vous vivez.
À titre d'exemple, parce qu'il faut quand même préciser que le livre, je disais que c'est un livre exposition, il se lit avec un vrai plaisir. Je veux dire, c'est vraiment un plaisir d'assouvir la curiosité que vous éveillez lorsqu'on parcourt les pages. Le livre démontre bien qu'il y a une part d'universalité dans le besoin de divin et que les manifestations en sont différentes, mais c'est un peu comme une constante, une caractéristique que partage l'humanité entière.
Oui, tout à fait. Enfin, historiquement, c'est évident. C'est l'homme est entré en civilisation en entrant en même temps en religion. Il a commencé à ensevelir ses morts. C'est peut-être pas tellement le divin que le sacré, n'est-ce pas? C'est un besoin profondément ancré en nous. Et c'est l'un des rares phénomènes réellement universels de l'humanité, c'est les religions, quelles que soient les réalités que ce vocable recouvre, elles sont extraordinairement diverses, évidemment.
Vous proposez d'ailleurs une définition de la religion que je vais lire en vous citant. La religion est l'ensemble des croyances et des pratiques dont les hommes se servent pour établir une relation avec le monde de l'invisible. C'est aussi une définition quasi universelle.
Tout à fait. En sachant bien que les mots sont trompeurs et que ce que nous appelons religion ne rend pas compte nécessairement de ce qu'ailleurs nous englobons sur le vocable de religion. J'explique quelque part que religion renvoie à un domaine d'activité humaine qui est distinct d'autres domaines d'activité humaine. Ça, c'est une attitude purement chrétienne et occidentale. Ça ne se passe pas de la même manière ailleurs. Et c'est pour ça que le mot même de religion n'existe pas dans d'autres cultures. Alors, bon, cela étant établi, c'est vrai qu'il y a toujours une communication avec le divin. Il y a une part de sacré dans toutes les sociétés, plus ou moins mêlée aux activités courantes, communes, quotidiennes. Dans certains cultes, tout cela est extraordinairement imbriqué, n'est-ce pas ? Dans le christianisme, ça l'est moins. Mais il y a toujours une manière de communiquer avec quelque chose qui nous transcende. C'est ce que nous appelons parfois de manière un peu hâtive, la religion.
Oui, la religion. Alors, déjà, vous aviez rectifié un peu la formulation que j'utilisais entre le divin, le sacré, la religion. Il y a une série aussi dans le livre et dans l'exposition, que je n'ai pas vue, mais j'imagine que dans l'exposition s'y trouve aussi, une série de remises au clair de certains mots que l'on utilise et que l'on n'utilise parfois pas vraiment à bon escient. Si je reprends le mot religion, vous indiquez dans l'introduction du livre que même l'étymologie du mot religion à différentes interprétations possibles.
Oui, tout à fait. Étymologie latine, bien sûr, est ce qui relie les hommes entre eux, est ce qui les relie à au divin, peu importe. Ce qui me paraît, moi, essentiel, c'est la distinction entre une manière de concevoir la religion comme quelque chose que nous faisons à côté d'autres activités humaines, et la religion comme quelque chose qui imprègne tout ce que nous faisons. C'est une distinction capitale. En ce sens, je prétends que le christianisme est laïque par nature, que la laïcité est consubstantielle au christianisme, puisque dans l'Évangile, vous avez déjà la distinction entre les deux ordres, n'est-ce pas ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est quelque chose qui est uniquement chrétien. Ailleurs, ça ne se trouve pas. C'est pour ça que le mot de religion n'existe pas, par exemple, en arabe. C'est quand même extraordinaire. En arabe, c'est la sati, din. Din veut dire la loi. Et c'est pour ça que des mots comme laïcité, qui est un mot d'église, n'existe pas en arabe ou en hébreu. N'est-ce pas? On se sert de toutes sortes de mots de substitution, mais qui aucun ne dit exactement ce que nous entendons en français par laïcité ou par séculier. Nous sommes dans d'autres types, d'où l'extraordinaire difficulté à transposer dans des pays qui ne sont pas de culture chrétienne une notion comme celle de laïcité. Ce n'est pas aussi simple que cela. Mais vous voyez donc des modalités différentes, des mots qui, transportés ailleurs, disent autre chose, mais tout de même cette expérience commune qui est celle d'une inspiration au sacré, au spirituel, et qui fait que finalement nous comprenons l'autre quand il s'adonne à des pratiques religieuses. Et c'est ce que aussi je voulais montrer, ce que je veux faire passer par ce livre, c'est à quel point, si les réponses sont différentes, les réponses aux questions sont différentes, les questions sont toujours les mêmes.
Alors, une des approches aussi que vous suggérez, est, en définissant la religion, est de dire que la religion sert aussi à instaurer une sorte de morale civique. Je ne sais plus la manière dont vous formulez exactement cette proposition-là, mais la religion a aussi cette fonction-là, et c'est ce qui nous ramène peut-être à l'organisation aujourd'hui de la cohabitation des religions, c'est que la religion est aussi une sorte de code de vie en société pour les communautés qui y adhèrent.
Oui, on n'est jamais religieux tout seul. On a une une spiritualité individuelle, on peut avoir une mystique individuelle. La religion est une affaire de groupe, est une affaire collective. Et donc pendant des millénaires, on n'a pas imaginé qu'il puisse y avoir une morale, c'est-à-dire quelque chose qui nous tient ensemble comme société, qui ne soit pas religieuse. C'est assez intéressant. Jusqu'au cœur du XVIIIe siècle, quelqu'un comme John Locke, le philosophe anglais, le philosophe du XVIIIe siècle, l'apôtre de la fin XVIIe, début XVIIIe, l'apôtre de la tolérance religieuse, le père du libéralisme occidental, eh bien John Locke n'imaginait pas que l'on puisse pratiquer une morale sans religion. C'était le cas de Robespierre, n'est-ce pas, de quelqu'un qu'on...
Il avait créé d'ailleurs un dieu, l'être suprême.
L'être suprême, et qui était férocement anti-athée, n'est-ce pas, qui n'imaginait pas que l'on puisse... Bon, c'est terminé ça. Aujourd'hui, on conçoit une morale sans religion, mais c'est un phénomène récent. Tout cela est nouveau. Et donc, pendant des millénaires, et dans la plupart des sociétés humaines encore aujourd'hui, religion et morale sont inséparables. Alors, le tout est de savoir comment on organise cette société pour qu'une religion ne s'empare pas de l'ensemble du champ politique. Et c'est là que nous avons nous découvrons la part maudite des religions, ce que j'appelais dans un autre essai la religion meurtrière, et la violence religieuse qui a aussi sa place dans ce livre. Comment faire pour neutraliser cette part de violence qui existe dans toute religion, vaste affaire que nous n'avons pas encore réglée complètement, comme nous le constatons hélas tous les jours.
Mais auquel ce livre et cette exposition visent à contribuer. Est-ce que on sait que l'exposition a déjà tourné, comme vous le disiez, enfin je dis tourné comme un spectacle, mais c'est vrai qu'il y a une partie très attractive dans l'exposition. Elle a déjà tourné depuis 2006, je crois, à Bruxelles, à Madrid. Elle est à Paris maintenant jusqu'au mois de janvier, au Canada. Est-ce que vous avez déjà pu mesurer d'une certaine manière si l'exposition, le livre ont un impact? Est-ce que vous avez des échos des écoles, des professeurs, des visiteurs?
Comment le savoir? À Bruxelles, on a eu des milliers de jeunes qui sont passés, qui ont vu l'exposition, qui ont débattu en classe d'exposition. Maintenant, quel est l'impact d'un événement culturel sur les comportements? Ça, c'est toujours, ça serait présomptueux de vouloir le définir. Mais je pense que il n'est pas nul. C'est-à-dire qu'il faudrait, il n'est pas mesurable. Et si on multipliait des initiatives de ce genre, nous sommes en train de préparer une grande exposition sur l'Europe et l'islam, par exemple. Encore une tentative de montrer ce qui a été. Mais sans message pesant, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas d'enfoncer dans la crainte des gens un message d'irénisme, mais par le simple fait de venir là, de voir comment cela se passe ailleurs, chez le voisin, je pense que ça a un impact. Et moi, je raconte volontiers une anecdote que je trouvais extraordinairement révélatrice. Ici à Bruxelles, j'ai entendu un jeune homme, visiblement d'origine maghrébine, dire à un copain, tu vois, les juifs font ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils font ça aussi? Ça, je n'en sais rien. C'était sans doute la circoncision. Mais vous voyez à quel point, du coup, il a découvert qu'il y avait donc chez l'autre, un autre d'ailleurs incommode, avec lequel on est souvent en situation de conflit, un point de contact, quelque chose qui lui a dit, tiens, et voilà, ils sont comme nous. Et c'est, ils sont comme nous, et pour moi extrêmement important. Ils sont comme nous, ça ne veut pas dire qu'ils sont nos clones, ça ne veut pas dire qu'ils sont exactement comme nous, mais ça veut dire qu'ils sont des humains que l'on peut comprendre, dont on peut comprendre les pratiques, et qui à l'occasion ont des pratiques qui sont étrangement similaires à celles que nous pratiquons. Ce n'est pas rien.
Élie Barnavi, c'est sur ce n'est pas rien que nous allons conclure cet entretien. Je rappelle le titre et du livre et de l'exposition qui, pour le moment, est à Paris au Petit Palais jusqu'à la fin du mois de janvier. Dieu au pluriel, mode d'emploi au pluriel aussi d'ailleurs. C'est paru chez André Versailles éditeur en coédition avec Tempora. Tempora qui est, comme vous disiez, le bras armé mais aussi le bras instruit du musée de l'Europe. Élie Barnavi, je vous remercie et puis je souhaite à tous ceux qui nous écoutent d'aller visiter l'exposition, de lire le livre et puis de mieux connaître l'autre, ce qui est finalement un des objectifs que l'on peut tous espérer atteindre. Merci Élie Barnavi.
Merci à vous.
Les rencontres d'Edmond Morel.